Récemment, en recherchant une station de radio en modulation de fréquence, vous avez peut-être entendu cet indicatif bizarre.
Principe Actif, le mix des cultures.
C'est celui de
Principe Actif. Principe Actif.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Bon, vous voulez envoyer un peu de musique, cher ami ?
Black and gray.
À Paris et à Bounia, à 5h à Kinshasa, vous écoutez Radio France Internationale. Avec Gaëtan Plenet pour un nouveau point complet sur l'information. Gaëtan, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Votre journal est l'épidémie d'Ebola qui inquiète et qui s'étend en République démocratique du Congo.
Un premier cas confirmé dans le sud Kivu. On sait gérer, mais il faut des financements internationaux, dit l'épidémiologiste Jean Kaseya, directeur d'Africa CDC. Vous l'entendrez dès le début de cette édition. Autre témoignage à suivre, celui d'un des militants de la flottille pour Gaza. Il raconte les coups pendant sa détention en Israël. Reportage ensuite à Cuba. Entre peur et incrédulité pour les habitants de la Havane, alors que les pressions américaines s'accentuent sur l'île. On parlera aussi des additifs alimentaires dangereux pour la santé. C'est ce que disent à nouveau plusieurs études françaises publiées hier. Et puis on vous emmène au Brésil, où le football est roi, mais où l'engouement est timide. À moins de 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde masculine, les supporters ne croient pas franchement à la victoire. En République démocratique du Congo, la FCM23 confirme un premier cas positif à Ebola dans le sud Kivu. Ça fait donc désormais 3 provinces concernées, avec celle de l'Ituri et du nord Kivu. Selon le dernier bilan donné hier par le ministère congolais de la Santé, on en est à 671 cas suspects et 160 décès probables. L'épidémie progresse et Africa CDC est en première ligne auprès des patients. C'est l'agence sanitaire de l'Union africaine et son directeur, le médecin congolais Jean Kaseya, s'est rendu hier dans la ville de Bounia, en Ituri, la province la plus touchée. Il le dit sans rougir, la RDC sait comment gérer une épidémie d'Ebola. Ce n'est pas la première, mais la 17e. Mais l'expérience n'efface pas les besoins. Et pour Jean Kaseya, l'aide internationale, notamment en termes de financement, est plus que bienvenue.
La RDC a des experts, et je peux même le dire sans me tromper, les plus grands experts d'Ebola au monde se trouvent en RDC. Tout ce que la RDC manquait, c'est les médicaments et les vaccins, et puis des financements adéquats. Ce que je demande aux pays occidentaux, c'est d'abord de se dire, fermer les frontières, ce n'est pas ça ce qui doit être fait. Deuxièmement, de se dire, nous, pays occidentaux, failli pendant 19 ans, nous n'avons pas aidé à développer les vaccins, les médicaments contre cette maladie qui tue des centaines et des centaines de personnes, parfois des milliers de personnes. La troisième action, comme je vous ai dit, les mesures de santé publique coûtent cher, les pays africains veulent bien investir, ils commencent à investir, mais on aura besoin de beaucoup plus de moyens. Et donc, si les pays autres peuvent venir pour mettre la main aux investissements des pays africains. C'est cela qui sera la voie de sortie.
Des propos recueillis par Sofiane Amazian, Jean Kaseya, qui confirme également l'organisation ce samedi par Africa CDC d'une réunion transfrontalière du côté de Kampala en présence des ministres de la Santé congolais, sud-soudanais et ougandais. L'Ouganda, où un seul cas a été rapporté, pas de foyer d'épidémie locale signalé pour l'instant, et les autorités tiennent à ce que ça reste comme tel. Alors elles prennent des mesures, 11 pour être précis, elles ont été dévoilées hier avec notamment l'arrêt temporaire des vols entre le pays et la RDC, celui aussi des ferries sur la rivière Semliki ou encore des bus transfrontaliers, le tout pour une durée de 4 semaines. Et puis l'Inde aussi joue la prudence. Le pays et l'Union africaine ont annoncé reporter le sommet Inde-Afrique qui devait se tenir la semaine prochaine à New Delhi. L'Inde reporte également un autre sommet prévu lui début juin sur la conservation des grands félins. Espérons que ça fera avancer les choses, dit Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, qui a envie de croire à des progrès diplomatiques pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, alors que le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, pourrait se rendre à Téhéran aujourd'hui. Le Pakistan, qui est le médiateur dans ce dossier et qui a d'ailleurs transmis la dernière proposition de paix américaine, les Iraniens disent l'étudier, mais menacent, comme Washington d'ailleurs, de reprendre les combats à tout moment. Au Liban, les combats sont censés s'être arrêtés depuis mi-avril à la faveur d'un cessez-le-feu qui continue pourtant d'être quotidiennement violé. Encore 9 blessés hier dans le sud du pays, selon les autorités libanaises qui affirment qu'un hôpital a été visé par une frappe israélienne. Et puis l'armée israélienne annonce ce matin avoir tué 2 hommes près de sa frontière, toujours côté libanais, des individus armés qui se déplaçaient de façon suspecte, nous dit-on. Israël, où les 430 militants d'une flottille pour Gaza ont été expulsés, d'abord arrêtés lundi dans les eaux internationales, ils avaient ensuite été amenés dans l'État hébreu. Et une vidéo avait fait polémique, publiée par le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, des images témoignant de conditions de détention musclées, pour ne pas dire franchement violentes. Après les images, les témoignages, et celui-ci notamment, un militant séparé des autres juste après leur arrivée au centre de détention israélien. Il a été rapidement rapatrié en Italie et il raconte à ne le nier.
Il s'agit du député du mouvement 5 étoiles, Dario Carotenuto, dont voici un extrait de son témoignage à l'aéroport de Rome-Fiumicino.
Nous avons été enchaînés, les yeux bandés et contraints de rester dans des positions horribles. J'ai reçu un coup de poing dans l'œil, des coups de pied partout, mais moi je suis sorti debout de la salle des horreurs. Il y avait des personnes avec des fractures, des violences sexuelles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Ben-Gvir est un ministre du gouvernement Netanyahou et qu'il le représente.
Une précision qui prend tout son sens en Italie, où le gouvernement Meloni a certes haussé le ton contre Israël, mais jamais critiqué ouvertement Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, le chef de la diplomatie, Antonio Tajani, a demandé à l'Union européenne d'imposer des sanctions uniquement au ministre israélien de la Sécurité nationale. Et cela fait d'autant plus réagir les contestataires comme Alessandro et Lucia, qui ont participé à un sitting pro Gaza devant la Chambre des députés.
Nous demandons des sanctions contre les autorités israéliennes et pas seulement un ministre pris comme un bouc émissaire, ainsi que la suspension de toute relation avec Israël.
La flottille a été un moyen de parler de la Palestine. En fait, elle a permis de mettre en lumière plus clairement le génocide.
La mobilisation pour Gaza se poursuivra ces prochains jours dans tout le pays. Anne Lenir, Rome, RFI.
Gaza, où la situation humanitaire est toujours aussi catastrophique selon 3 ONG, dont Oxfam, qui l'ont dit hier lors d'une conférence de presse au siège des Nations Unies à New York. Ces ONG dénoncent le fait qu'Israël continue de refuser l'entrée de fournitures nécessaires dans l'enclave, exposant notamment les Gazaouis à des risques sanitaires élevés. C'est le grand jour pour Kevin Warsh. Tout à l'heure, à la Maison Blanche, il prêtera serment en tant que nouveau président de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Sa candidature a été validée par le Sénat il y a quelques jours. Candidature soumise par Donald Trump, qui cache de moins en moins son intention de peser sur la politique monétaire. Les relations pourraient bien être moins tendues qu'avec celui qui occupait le poste jusqu'à présent, Jérôme Powell, qui lui refusait d'abaisser les taux directeurs de la Fed, contrairement à ce que réclamait le locataire de la Maison Blanche. Les États-Unis qui annoncent l'arrestation d'une ressortissante cubaine, la sœur d'une haute responsable de l'île communiste. Elle a été placée en détention par les services de l'immigration. Ça fait suite à l'inculpation par la justice américaine, toujours de l'ex-président cubain Raúl Castro, dont on vous parlait hier, inculpé, mais pas arrêté lui, puisqu'il se trouve toujours dans son pays. En tout cas, les pressions américaines s'accentuent. Washington veut un changement de régime à Cuba et le dit ouvertement. Dans les rues de la Havane, on ne sait plus trop quoi en penser, entre peur et incrédulité aussi. Reportage de Marco Davier.
La vie quotidienne suit lentement son cours sur l'emblématique place de la Fraternité. Un sac rempli d'emplettes payées à prix d'or, Mercedes admet tout ignorer des récentes menaces américaines.
Moi, je pensais, comme je vois les rues très calmes, une sorte de tranquillité et de paix ambiante. Je ne me suis souciée de rien, mais tout ça me fait très peur. Ça me fait très peur, n'est-ce pas ?
La sexagénaire ne reçoit guère les nouvelles, privée de connexion Internet.
Nous n'avons pas d'électricité, alors je ne m'informe pas, mais je le vois comme quelque chose d'absurde. Et par ailleurs, je ne pense pas que ce soit la vérité, je ne pense pas que ça ne va pas arriver. J'ai l'impression que ce sont des mensonges. Et en réalité, je n'ai pas envie qu'il se passe quelque chose à Cuba. Je ne veux pas que ça arrive.
Un voisin, Alberto, passe par là et s'immisce dans la conversation. Lui doute des intentions réelles de l'administration de Donald Trump.
Je ne sais pas, parce qu'à la fin de l'histoire, ces gens répètent toujours la même chose. Ce sont des menaces par ici, des menaces par là, des menaces de tous les côtés. Mais au final, rien. Nous vivons toujours pareil. Et à la fin, ceux qui souffrent, eh bien c'est nous.
Il revient sur la capture de Nicolas Maduro, l'ex-leader vénézuélien.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien. Ils n'ont résolu aucun problème. S'ils interviennent quelque part, c'est pour arranger les choses. Alors si c'est pour faire pareil ici, qu'ils ne viennent pas.
À demi-mot, tous deux confient toutefois espérer une amélioration de leurs conditions de vie. Margot Davier, La Havane, RFI.
Et hier, la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a appelé à la fin, je cite, du contrôle et de l'isolement du peuple cubain qui mérite, selon elle, des opportunités et la liberté. Une déclaration faite depuis Mexico, où elle participe à un sommet UE-Mexique. C'est en marge de ce sommet que doit être signé un accord de libre-échange. Il prévoit notamment la levée de la plupart des droits de douane qu'ils s'imposent mutuellement. Le Mexique et l'Union européenne cherchent ainsi à réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis, surtout dans le contexte international actuel. Et c'est aussi dans ce contexte que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se réunissent depuis hier dans le sud de la Suède. C'était prévu avant la guerre au Moyen-Orient, mais forcément l'agenda a un petit peu changé. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est attendu sur place aujourd'hui, alors que les États-Unis reprochent aux Européens de ne pas suffisamment les soutenir dans le conflit qui les oppose à l'Iran. Et les craintes d'un désengagement américain en Europe sont de plus en plus fortes. On vous en parlera avec notre spécialiste défense dans le journal de 6h en temps universel. Pour l'instant, il est 6h10 à Paris. La France, où le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé hier soir de nouvelles mesures pour faire face à la crise des prix de l'énergie, une conséquence directe là aussi de cette crise au Moyen-Orient. Des aides seront prolongées et amplifiées, mais ça veut dire qu'il faut compenser par des économies faites ailleurs, a prévenu le chef du gouvernement, et des économies. La France en cherche un petit peu partout, notamment en faisant payer certains de ses voisins. Ainsi, après des années d'âpres négociations, Paris est en passe d'obtenir une victoire sur la question des travailleurs frontaliers. Reportage à Thionville, dans le nord-est de la France, près de la frontière luxembourgeoise. Aurélien Devernois.
À Thionville, la moitié de la population travaille dans le pays voisin où les salaires sont bien plus élevés. Installée route du Luxembourg, l'agence pour l'emploi local est bien placée pour le savoir, surtout que nombre de ces travailleurs frontaliers viennent un jour ou l'autre cogner à la porte de Sébastien Collonge, son directeur.
On a 5 conseillers qui accompagnent spécifiquement les demandeurs d'emploi frontaliers. Donc répartis dans ces 5 portefeuilles, on va retrouver environ 800 demandeurs d'emploi.
Car les travailleurs français du Luxembourg, mais aussi de Belgique ou de Suisse, sont indemnisés en France quand ils perdent leur emploi. Un gouffre financier, explique le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, en visite sur place ce jour-là.
Bonjour, monsieur le ministre. Au total, l'enjeu d'économie, c'est 860 millions d'euros par an. Il n'est pas normal que cet argent ne reste pas dans les caisses de l'assurance française. Donc là, la réglementation va évoluer.
En effet, il ne manque plus qu'un vote du Parlement européen pour que les indemnités chômage soient prises en charge par le pays de cotisation. Stéphane, qui vient tout juste de perdre son emploi de chef de projet informatique au Luxembourg, est partagé.
L'indemnité au Luxembourg est plus importante. D'un autre côté, pour le moyen et long terme, ça peut être plus intéressant de rester en France parce que l'indemnité est donnée de façon plus longue.
Les calculettes vibrent déjà, mais le gouvernement français le jure, la réforme sera bénéfique pour les travailleurs frontaliers. Le Luxembourg a toutefois d'ores et déjà demandé un délai supplémentaire pour appliquer ses directives prévues pour 2028.
Aurélien Devernois. En France, toujours, ces 3 études publiées hier dans plusieurs revues médicales, elles montrent que consommer des aliments avec des colorants et des conservateurs s'accompagne d'un risque accru de cancer, de diabète et de maladies cardiovasculaires aussi. Les explications de Juliette Pietraszewski.
Des colorants dans les confiseries, les sauces ou les plats préparés et des conservateurs dans certaines charcuteries, soda ou yaourt. Derrière cette liste, les scientifiques se sont intéressés aux habitudes alimentaires de près de 100 000 personnes depuis 2009. Résultat, les grands consommateurs d'alimentation transformée ont un risque plus important de développer certains problèmes de santé. Mathilde Touvier, épidémiologiste et directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
On voyait que les personnes qui étaient les plus exposées aux colorants alimentaires avaient un risque plus élevé de développer au cours du suivi un diabète de type 2 ou encore un cancer. Et pour ce qui était des conservateurs, on s'intéressait ici au risque de maladies cardiovasculaires et d'hypertension. Et les plus exposés aux conservateurs avaient plus de risques de développer ces pathologies.
Au niveau mondial, 93 études montrent les effets délétères sur la santé des aliments ultra transformés. Il faut donc agir, Mathilde Touvier.
On espère que ces études vont déjà servir à réévaluer la sécurité sanitaire de ces substances de manière à intégrer ces nouvelles connaissances scientifiques et à éventuellement retirer du marché des substances additives qui pourraient être problématiques ou à diminuer les doses autorisées.
Autre levier d'action en France, mieux informer les consommateurs en précisant la présence de colorants et conservateurs dans le Nutri-Score, un système qui indique la qualité nutritive des aliments sur leur emballage.
Lens contre Nice, c'est ce soir, finale de la Coupe de France de football au Stade de France près de Paris. Coup d'envoi à 19h10 en temps universel. L'autre grand rendez-vous, et cette fois pour la planète football tout entière, c'est la Coupe du Monde masculine. Ça approche, premier match le 11 juin, avec trois pays organisateurs, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le Brésil, lui, espère soulever la coupe. Pourtant, les supporters brésiliens ne semblent pas trop y croire. Il faut dire que la dernière fois, c'était il y a 24 ans. Alors pour l'instant, l'heure n'est pas franchement à l'engouement. Reportage à Sao Paulo de Sara Cozzolino.
Dans le quartier de Pinheiros, des élèves peignent la façade de leur école pour le mondial. Julio, 13 ans, ne s'est pas réjoui de voir la convocation de Neymar.
Ce n'est plus un si bon joueur. Je pense qu'il aurait fallu convoquer des jeunes qui se démarquent, pas seulement ceux qui ont été bons par le passé.
Avec son camarade Gilles et sa classe, ils ont pensé l'œuvre comme une critique sociale.
Il y a un motif où on a réuni des symboles. Il y a une croix, un dollar et un ballon. On parle de ces trois thèmes. Le foot, c'est comme une religion et ça fait tourner beaucoup d'argent.
Caché dans ton jardin secret, j'entends pousser des plaintes carnivores. Tu as regagné ta jungle sacrée, les vieux songes purs leur centre dévore. Dans ton jardin secret, terre impénétrable. Jardin secret, terrain vague, à l'âme. La serre invisible s'est refermée. Je reste interdit, je ne peux pas. tandis que tu t'étioles. Tu t'es caché dans ton jardin secret. J'entends pousser des plaintes carnivores. Tu as rejoint ta jungle sacrée. Les vieux songes hurlent leur centre des morts.
Qui a tué Kennedy, je veux savoir quel enfoiré a tué Kenny. Souris Taline, décode sens de la vie, femme fontaine me fait danse de la pluie. Change de parvé, ouais. Change de niafou, ouais. Ouais, change de passeport. Ouais. Check, tu vois flou, comme Ray Charles qui baisse, tu vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport, non. Ni aujourd'hui, ni le jour d'après. Moitié de casseur flotteur et sur tous les fronts comme Boukake. Toi tu parles comme Janin Zanamin, t'as la bouche plâtrée.
Non, non.
T'avais rien connu de plus dur depuis ton BEP. Allez, change de techa, ego change d'amidal. Bien sûr, c'est nous les rois du royaume animal. Y'a trop de flow sous le capot, donc à cheval fiscal. Et toi, tu me parles de quoi? T'es juste en phase finale. Image pétée, musique marketée, tellement bien assortie. Que je parle pas d'ordi quand je dis qu'il faut que je mette à jour ma base virale. Et je crache dedans comme dans une bokeh. Ouais, je crache dedans comme dans bouche d'ego. Trouve leurs albums dans fortune coquée. Je vais tous les shooter comme. C'est pas le retour des casseurs, respire. Tu veux ta dose, voilà le meilleur de ce que je fais de pire.
Konnichiwa, bitches. 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 Konnichiwa.
Pas d'une vie en leasing, jouer ou rouler dans une vieille série B. J'ai connu période de vache maigre, maintenant je veux manger du bœuf de Kobe. L'industrie fait dans le streaming, je suis tellement courte, on voit son stérilet. Comme celle à qui j'ouvre mon cœur et qui aura bientôt à cœur de me loter. Je vais devoir lui dire qu'aimer ça fait mal comme dire la vérité. Qu'un jour Cupid on m'a donné rendez-vous en terre étrangère. Ouais. Elle réécoutera mes maquettes en pleurant juste avant de les liquer. Ah bon, l'amour est dans le pré? Ici, il est surtout dans le pré bancaire. J'parle aux fidèles comme un messie. Envoie mes sons comme des pains bénis. Gère ma paroisse comme un SB. Où t'as vu que tout travail est de stagiaire? Hello, le monde compte pas sur moi pour que je sois clean.
Hello.
Loi duple Cupid, on redescend la courbe de Darwin. Plein de petits CF qui nagent le crawl dans les couilles de Marvin. C'est moi l'inconnu du grand public avec un double platine. Faut que tout paye comptant, faut que tout paye au black, faut que tout paye en cash. J'ai trop perdu mon temps, j'arrive en retard comme un nouvel an noache.
Konnichiwa, bitches. 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 Konnichiwa.
J'ai juste fermé les yeux, je me suis un peu endormi. Je me souviens qu'à mon réveil, le monde m'avait distancé. Et rien que je parle hébreu, les mecs se disent encore les projets d'avenir sans espoir, comme le tennis français. J'ai juste fermé les yeux, je me suis un peu endormi. Je me souviens qu'à mon réveil, le monde m'avait distancé. Et rien que je parle hébreu, les mecs